quelques chansons vous ont un peu parlé ou si vous avez envie d'en ramener un bout à la maison, sachez que j'ai des disques avec moi. Et sachez aussi que si vous l'achetez ici, il vous coûtera à vous moins cher et il me rapportera plus d'argent à moi. Parce qu'on élimine tout un tas d'intermédiaires qui font que... Voilà, c'est... En fait, vous pouvez voir la chose de deux façons. Si vous êtes de droite, vous pouvez voir ça un peu comme une sorte de rapport gagnant-gagnant. Puis si vous êtes de gauche, vous pouvez voir ça comme une forme de commerce équitable. Achetez mon disque, sauvez une baleine.
Alors, il dort le gros con? Il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Il entendra chanter les anges, le gugus de Montauban. Je vais le renvoyer tout droit à la maison mère, au terminus des prétentieux.
Coupe du monde, à qui profite le foot? On est en droit de se poser la question quelques heures avant le début du mondial 2026. Aux footballeurs, certes, avec 48 équipes au lieu de 32, les équipes modestes ont une chance de participer à la plus grande épreuve sportive du monde. Mais pour le reste, les valeurs du sport ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. Des pauses fraîcheurs systématiques de 3 minutes à environ la moitié de chaque mi-temps, qui auront lieu indépendamment des conditions météorologiques et de la température ambiante, et donneront la possibilité aux diffuseurs de programmer des coupures publicitaires en cours de match, et tant pis pour le fan de foot devant sa télé. Côté horaire des rencontres, afin de faire plaisir au public européen, des rencontres auront lieu à 12h et à 13h, en heure locale, en pleine chaleur, et tant pis pour la santé des joueurs et des supporters. Le prix des billets a explosé, et tant pis pour l'ambiance, avec des stades qui risquent de sentir un peu le vide. Les supporters haïtiens et iraniens n'auront pas le droit de faire le déplacement aux États-Unis, et tant pis pour les valeurs du football selon la FIFA, l'éthique, l'intégrité et le respect des droits humains. Sans compter l'impact environnemental avec des déplacements entre trois pays et de longues distances, et tant pis pour la planète, n'en déplaise à la FIFA, soi-disant très attentive à la réduction des déchets produits en amont des compétitions qu'elle organise. À qui profite le foot? À la FIFA, assurément, aux footballeurs, sûrement pas. Au terminus des prétentieux, 1180e match nul ce soir, n'a jamais compris la notion de stade durable. Ballon, ballon rond, tu montes jusqu'au plafond. Sur les 90.0 de Radio B, quand il parle de foot, Henri Dess n'est pas un bouffon. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Terminus des Prétentieux tous les jeudis de 17h15 à 18h15, on l'espère, pour une émission que l'on attendait depuis longtemps. Depuis cette mauvaise herbe en 2009, ce rock XX sans concession ne nous avait pas laissé indifférents. Et puis, chemin faisant, nous nous étions laissés apprivoiser par les contes d'un artiste pas comme les autres. L'anglais avait laissé la place aux français, même si la musique lorgnait plus du côté de la perfide Albion ou du pays de l'oncle Sam que de celle d'Yves-Marie Bello. En parlant de ce dernier, son passage à la tannerie de Bourg-en-Bresse la veille d'un énième confinement, en un seul mot, heureusement, avait été l'occasion de rencontres dont on se souvient encore aujourd'hui. Alors celle d'une illustre inconnue. Celle d'une illustre inconnue qui portait bien à l'époque son nom de scène et dont Tonio avait apprécié sa présence dans le studio quelques mois plus tôt. Mais aussi celle, je parle de rencontre, avec un artiste avec un grand A et pas uniquement celle de l'Assemblée artistique des diversités numériques, dont il est un des membres fondateurs du côté de Lyon. Après quelques années parisiennes, il décide, lui le citadin, de rejoindre la nature. Il emmène sa famille à Valade-en-Gier, dans le massif du Pila, dans le 4-2, lui le gonne du 6-9, retape une vieille baraque, y installe son studio et écrit de nouvelles chansons en se redécouvrant presque, puisque son nom de famille reste son jardin secret. Un jardin dont il a décidé d'ouvrir les portes en musique, et c'est avec un grand plaisir que nous accueillons dans les studios de Radio B sa plus belle plante, Victor Lee Gabriel Roux, alias Victor Lee Gabriel. Victor, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, toi qui n'es pas fan de foot, entre le Rhône, Paris et la Loire, ton cœur balance?
Oula. Tu veux que je me fasse des ennemis directs?
Oui.
Alors, je suis absolument pas footeux, donc c'est difficile pour moi de répondre. Par contre, j'ai un petit garçon qui, lui, est mordu et lui, il soutient le PSG. Il est né pas très loin de Paris et voilà. Donc je vais répondre le PSG pour ça.
Bon, bah, ça va, ça va.
Puis ils viennent de gagner, je suis du côté des gagnants.
Ouais, ouais, ça va. Tant que tu n'es tant que t'es pas lyonnais, c'est l'essentiel. Voilà. Footballistiquement parlant, hein, voilà. On n'a rien contre les autres. Alors bien, tu seras avec nous jusqu'à 18h15 et tu nous présenteras ton premier album sous le nom de Victor Lee Gabriel, Le Monstre et la Maison, sorti le 25 avril 2025 sur le label de musique jouée Vibration sur le fil. Ouais, le même que celui de notre ami Yves-Marie Bello.
Exactement.
À tes côtés, je te présente mon co-animateur. La semaine dernière, nous faisions le point sur ses 13 années comme animateur radio. Alors, il l'a dit. J'aime bien tes introductions, mais là, et là, il me dit, tout est à refaire.
Quel enchaînement.
Alors vois-tu, j'aimerais t'offrir le...
meilleur.
Le meilleur. Tu mérites un chef-d'œuvre.
Chef-d'œuvre. Okay. C'est vieux, ça.
Ouais. Ah bah mais j'ai... voilà. Oui, c'est... Donc avec mon rancadé, il me dit, hein, j'irai...
Loin des pavés.
Là-bas.
Ah, là-bas, oui.
J'irai là-bas... non, c'est pas pareil, parce que là, attends. J'irai là-bas danser loin des pavés.
D'accord. Ouais, t'as vu ouais.
Alors, je voyais bien que son verre était à moitié vide.
Vide, effectivement.
Ah, tu m'étonnes. Encore un verre... solitaire.
Waouh, celui-là, je l'aurais pas trouvé.
C'était une chanson, ça de...
Non.
Non, encore un verre solitaire.
C'est ton imagination, en fait. Plus. Alors, je sais pas, t'aurais pu dire alors, le Ténia aussi. Hein.
Alors, je lui dis... Sors.
Sors.
Ouais. Sors, oui. Avec un peu d'air frais, tu guériras.
Ouais.
Hein? Ce n'est rien, me répondit-il. Quand tout tombera demain, pas sûr que tu danses...
Encore.
Encore. À l'aurore, au-dessus des montagnes, il fait encore... noir.
Wow.
Eh oui. Le sombre, le sombre dans le clair, tu dois confondre avec l'hiver, lui dis-je.
Hein? Mmh. Tu nous as fait ouais. un crossover, là.
Ah, mais là, c'est...
Les voix de la seigneurie sont visiblement impénétrables. Tonio, bonsoir.
Bonsoir Michel, bonsoir Victor, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, bah, il a encore fait très fort avec une histoire pas si bizarre que ça.
Non,
du coup,
non, ça
hein.
va.
Il y a eu pire.
Ouais, il y a eu pire.
Ouais. Là, on arrive à peu près à suivre, à comprendre. Parce qu'il y a des fois, on ne comprend rien en fait. Voilà. Donc, voilà. Donc tu as compris le système. Hein.
J'ai compris.
Donc, voilà. T'as vite compris. Hein.
Oui, ouais, très rapidement.
Dès que j'ai dit oui, oui. Là, tout est à refaire.
Voilà, donc mais c'est bien, hein, c'est bien. Tu fais partie des invités qui ont compris rapidement.
Voilà.
Parce qu'il y en a d'autres, ils attendent le milieu, ou alors d'autres carrément la fin. Donc toi, t'es dans les premiers. Donc ça...
T'as bien suivi ton...
Bien vu, Victor.
Je suis très fier.
Même les vieux morceaux. Hein. On y va ?
Allez, bah, morceau.
Allez.
If you're traveling to the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true love of mine. See for me that her hair's hanging down. It curls and falls all down her breast. See for me that her hair's hanging down. That's the way I remember her best.
If you go when the snowflakes fall, when the rivers freeze and summer ends, please see for me if she's wearing a coat so warm to keep her from the howling.
If you're traveling in the North Country Fair,
where the winds hit heavy
on the borderline, please say hello.
was there. For she was once a true love of mine. In the North Country Fair, where the winds get heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true love of a true love of mine.
Le 27 mai 1963, Robert Allen Zimmerman, devenu officiellement
Bob Dylan,
bien, en 1962, sort son deuxième album
The Free Willing. Non, c'est le premier, ça. C'est
A
Time Are Changing. Non, c'est ça.
C'est The Free Willing. C'est bien, ouais. The Free Willing, Bob Dylan. Très bien, que l'on pourrait traduire hâtivement par Bob Dylan, la roue libre.
Non, roue libre, ouais.
Ouais. Donc rien à voir avec le monde du vélo, hein, même si l'artiste a un rapport particulier avec les deux roues, notamment à la moto. Hein, il y a un accident qui lui coûta 3 ans de son épopée rock'n'roll entre 1966 et 1969. Le premier album de l'artiste éponyme, sorti un an plus tôt, n'avait pas attiré les foules, 5000 exemplaires en un an. Mais le style était déjà là et la renommée de Bob Dylan va exploser à travers le monde et ne retombera plus jamais, contrairement à la qualité de ses chansons, diront certains.
Pardon ?
Alors,
comment ? Excuse-moi, ouais. J'étais en train de réfléchir à The Free Willing.
Ok, d'accord.
J'ai eu un petit moment d'absence. Reprends la question.
Reviens avec nous. Donc, mais le style est déjà là avec le premier album.
Oui.
Et la renommée de Bob Dylan va exploser à travers le monde et ne retombera donc plus jamais, contrairement à la qualité de ses chansons, diront certains.
Là, je vois pas.
Ok. Non, mais pas toi. Pas toi. Certains ont dit que les chansons étaient moins bonnes après.
Bah, moi, je trouve pas, mais.
Non, mais certains, je parle ça à certains.
Ouais, ouais.
Oui, certains l'ont dit.
Mmh, ok.
Bon, confirme, certains l'ont dit, oui.
Ouais, ouais, oui, sûrement.
Bon, alors, mais revenons en 1963.
Ouais.
Si vous voulez bien, et la sortie de
The Free Willing.
Voilà, Bob Dylan.
Mmh.
Pas oublier la fin. Hein. L'album s'appelle The Free Willing, Bob Dylan.
Ah bon. Je savais pas, d'accord.
Alors, dès la première chanson, le ton est donné.
Blowing in the Wind.
Voilà, devenue chanson pacifiste, pardon, et l'archétype de la chanson de protestation, l'hymne d'une génération, qui contribua pour certains à ériger son jeune auteur de 21 ans en porte-parole, en guide spirituel du mouvement des droits civiques. Master of War est une chanson pleine de colère à l'égard des marchands d'armes et des Master of War, ces dirigeants militaires ou politiques décideurs des guerres. Girl from the North Country est un titre plus intimiste qui rompt avec la tradition folk du premier album. On retrouve le morceau culte de ce soir en 1969 sur l'album de Bob Dylan, Nashville Skyline. Skyline. Oui. Mmh. On dit Skyline.
Skyline. Oui. L'horizon, quoi.
Un essai country plutôt réussi.
Mmh.
Il est accompagné par une autre légende de la pop rock,
Johnny Cash.
Rock américaine et même mondiale, hein, Johnny Cash. La voix de Bob Dylan a quelque peu changé.
Bah ouais, même tout à l'heure, là, je me disais, c'est pas lui. Mais si, c'est lui, visiblement.
C'est
ce que je te disais tout à l'heure.
Ouais,
D'une époque à une autre, il a pas la même voix.
Bah, je me suis dit, ça doit pas être la bonne chanson, le bon album, j'ai bien vérifié. Vraiment pas la même voix.
Hein. Non, vraiment pas. Mais moi, je te dis, même. Enfin, je la connaissais, cette version, mais je l'avais pas entendue depuis longtemps. Et tout à l'heure, je te dis, mais c'est pas lui.
Bah oui, c'est pas lui. Ouais. Alors, la voix de Bob Dylan, donc tu dis, a quelque peu changé, contrairement à celle de Johnny Cash.
Oui.
Hein, qui, lui,
constante.
Jamais, constante. Mmh. Et la version country n'a pas la couleur folk des débuts.
Exactement.
Mais elle garde son cachet et cette intimité qui ont fait d'elle une des plus belles chansons Un morceau repris par, attention là, Rod Stewart, Peter Townshend, Marc-Olivier Everett, le leader du groupe.
Alors, je connais le nom. Mais... Ah, si, c'est Mr. E, c'est... Ah, je ne connais que ça.
Ils, voilà, tout à fait. Voilà. Neil Young ou Émilie Loiseau.
Ah ouais, d'accord.
Ouais. On passera sous silence, bien sûr. Celle signée Hugo Frey, La Fille du Nord, de Jean-Jacques Goldman et Francis Cabrel, et de Louis Bertignac. 64 ans après ses débuts, enfin discographiques, hein, où en est Bob Dylan? Alors en 2016, il a obtenu, vous le savez tous, le prix Nobel de littérature pour avoir créé de nouvelles expressions poétiques dans la grande tradition de la chanson américaine. Son 40e album Shadow Kingdom est sorti le 2 juin 2023. Il est l'une des figures majeures de la musique populaire mondiale et reconnue pour la diversité des styles musicaux abordés dans ses chansons, hein, folk, country, blues, gospel, rock'n'roll et rockabilly, sans oublier les musiques folk anglaises, écossaises et irlandaises. Un morceau culte ne suffit pas à raconter l'histoire de Bob Dylan, mais évidemment,
non,
hein, un seul, hein. Victor, oui c'est toi Victor. Il y a un morceau qui restera toujours plus culte que les autres, c'est Girl from the North Country. Alors, que représente ce morceau pour toi?
C'est un morceau avec lequel j'ai grandi. Et pour moi, je trouve qu'il y a une différence entre la musique, au sens avec un grand M, et le songwriting. C'est... C'est-à-dire que la chanson, c'est une petite catégorie de la musique. Et dans la discipline du songwriting, je trouve que c'est le chef-d'œuvre ultime. Moi, je parle surtout de la version originelle, celle de Free Willing, ouais. Où il est tout seul avec sa voix, avec sa guitare et son harmonica. Et il se passe, pour moi, autant de choses que dans une symphonie où il y a... Voilà, mais simplement avec son histoire qu'il raconte, sa guitare, sa voix nasillarde, comme ça. Mmh. Et je trouve que c'est vraiment le chef-d'œuvre de ce que c'est qu'une bonne chanson, quoi.
Tu aurais préféré que je passe la version originale ?
Bah, écoute, non, parce que alors, je préfère la version originale, mais
t'aimes bien Johnny Cash aussi.
Alors, j'adore, ouais, Johnny Cash, donc, et voilà. Puis surtout, c'est que ça m'a fait redécouvrir cette version que j'avais complètement oubliée, tu vois. Où j'avais même pas reconnu... Je n'avais même pas reconnu Bob Dylan.
Donc Bob Dylan et toi, c'est forcément une très longue histoire.
Ouais, c'est le...
Enfin, longue histoire, pardon.
C'est la découverte avec la chanson, avec ce que j'appelle moi la chanson, avec le songwriting. Moi, je viens à la base plus du rock'n'roll, de la musique à riff, etc. Et pour moi, ça reste le référent de l'auteur de chanson, aussi bien du texte que de l'écriture musicale de la chanson. Et pour moi, c'est l'une des plus grandes chansons qui a jamais été écrite. C'est toujours compliqué de mettre une hiérarchie dans les œuvres, mais en tout cas, c'est une chanson qui me bouleverse, moi, que je trouve très très belle.
T'aimes tout chez Bob Dylan ?
Non.
Non.
Absolument pas. Ouais. Non, il y a 40 albums, je les ai même pas tous écoutés. Moi, je suis plus sensible. Comme tu disais tout à l'heure, il change de voix. Au fur et à mesure des années, il change de style, il y a beaucoup de périodes différentes. Même le personnage de Dylan, il y a un film qui était sorti, dont j'ai oublié le nom, mais qui était sorti il y a une dizaine d'années, où justement il retraçait les différents visages de Bob Dylan à travers plusieurs acteurs. C'est une sorte de personnage multiforme, Bob Dylan. Et moi, c'est vrai que je suis plus sensible au début, sans vraiment connaître le reste. Mais je me suis plus cantonné aux albums du début, très folk. Voilà.
T'as déjà repris du Bob Dylan sur scène ?
Eh ben, je crois pas.
Ah oui ?
Non, je ne crois pas.
On touche pas au maître, c'est ça ?
Non, ouais, et puis... Non, j'ai des chansons que j'ai composé, des chansons excessivement inspirées de Bob Dylan, ça oui. Mais repris du Bob Dylan, non, je m'y suis jamais risqué, on va dire.
Le folk fait partie de ton univers musical ?
Ouais, complètement.
Ouais.
Complètement.
Ouais. Et plus généralement, t'es un grand fan de la musique des 60, j'allais dire 65, 75.
Ouais, exactement. Ah, quand j'étais ado, et je viens du rock'n'roll à la base, mais à l'âge de 6 ans, je suis tombé fou amoureux de Nirvana et de toute cette scène un peu grunge, rock des années 90. Mais quand je me suis vraiment construit musicalement, donc à mon adolescence, j'ai été pendant des années complètement fou de la période 65-75, ouais. Et tous les groupes qui sont aujourd'hui des dinosaures, mais qu'on forgeait la légende de ce qu'est devenu le rock'n'roll. Quoi.
Ouais. Il y en a un paquet. Hein.
Oui, il y en a un paquet. Ouais. Ouais. Mm.
Bien, allez, il est l'heure d'ouvrir la porte de, ta maison. Ton studio ressemble-t-il à celui du Terminus ?
Alors, je ne vois pas à quoi tu fais référence. C'est quoi le Terminus ?
C'est l'émission.
C'est l'émission.
Ah, pardon.
Alors je recommence. Ton studio, ton studio ressemble-t-il à celui du Terminus ?
Pas du tout.
Le nôtre est superbe. Hein. Pour une fois, nous jurons les prétentieux. Bien sûr. Bah oui. Eh bien, il est 17h passé de 35 minutes sur les 90.0 de Radio B. Ou alors, Tonio ?
Ou alors, vous écoutez l'habituelle rediffusion du vendredi matin si vous êtes avec nous depuis 9h ou celle du samedi après-midi, 14h.
Ce soir, nous avons le plaisir, l'immense plaisir d'accueillir Victor Lee Gabriel Roux. Hein, même si c'est la première fois que tu nous rends visite, bah, ça fait très longtemps qu'on évoque ton parcours. Que ce soit avec XX Mariani, j'ai vu, c'était en 2008, la diffusion d'un EP, ou Grimm. Mmh. Hein, ton nouveau projet s'appelle Victor Lee Gabriel et tu as sorti le 25 avril 2025 un album intitulé Le Monstre et la Maison. Alors si la musique est partie de Lyon, bah, elle t'a toujours suivi.
Oui.
Hein, et pourtant au départ, c'est la bande dessinée qui t'attirait plus que la musique hein, pour un peu
Bah, j'ai commencé enfant, j'ai commencé par dessiner, etc. Après, j'ai pas un talent incroyable en dessin, ce qui fait qu'assez vite ça m'a passé. Mais oui, à la base je voulais être dessinateur, effectivement.
Ah ouais. Mm. Ça, c'est fini depuis longtemps. Là.
Bah non, parce que mon fils veut être dessinateur lui aussi, et donc je me suis remis au dessin pour dessiner avec lui, et en fait, bah, j'adore. Je suis nul, mais j'adore.
Oui, l'artwork de la pochette du dernier album, c'est toi ?
Oui.
Ah, c'est ça ?
Absolument.
Oui, c'est toi. Mm. Ah, donc il y a quand même des petits restes, quoi.
Ouais. Ah, ouais.
En fait, t'as toujours aimé dessiner, quoi.
Et ouais, j'adore ça. Ah, ouais, j'adore ouais. ça. Je c'est pas quelque chose que j'ai cultivé, mais là, je m'y remets. Ouais, j'aime ça, effectivement.
Ouais. Bon, donc tes débuts, bah, c'était sur Lyon, oui. Évidemment. Oui. Bon, il y a l'histoire de cette friche RVI. C'est important parce que ça a quand même laissé des traces.
Ça a laissé des traces, et puis ça a duré presque 10 ans. Ouais. Ouais. Ça a été ma construction de jeune adulte. C'est ma sortie du lycée. J'y suis resté un peu moins de 10 ans. J'y suis resté 6 ans. Et c'est mon début de mon engagement politique aussi. Et c'est, ouais, ça a été un, en gros, il y a un squat qui a ouvert, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la friche RVI, mais en gros, on avait récupéré une ancienne usine Renault RVI, mmh. et qu'on a squatté pendant presque 10 ans. Et dans le but de devenir friche artistique. Et l'idée, c'était de remonter un peu... on était pour la plupart des ados et on voulait créer une sorte de communauté avec un modèle politique un peu différent de ce qu'on connaissait. Alors ça a été un échec assez cuisant. On a un peu recréé tout ce que la société avait déjà créé avant nous. On a refait toutes les erreurs de tout le monde, etc. Mais bon, il faut bien que jeunesse se fasse.
Bah, oui.
Mais en même temps, ça nous a permis de monter un studio, de vivre en communauté, d'apprendre à s'autonomiser, pardon. Et moi, j'ai fait mes armes un peu dans cette friche, aussi bien musicale que...
artistique,
et puis même citoyenne. Ouais. Je me suis forgé une conscience politique, sociale, etc. Et même si ça a été un échec cuisant et qu'au final on s'est fait virer par les CRS en 2010 et que je suis monté à Paris parce que j'avais plus d'endroit, ça a été un moment fort de ma vie, effectivement.
Ouais. Tu l'as gardé parce que l'association ADN, tu l'as encore accroché à ton email, hein?
Ouais, c'est vrai.
Et puis,
l'association, elle a été créée effectivement à la friche. Après, elle a eu sa vie complètement hors les murs de de ce squat. Et aujourd'hui, je travaille encore avec eux, mais ça n'a plus rien à voir. C'est devenu une boîte de production, c'est autre chose. Mm. Mais effectivement, c'est né en 2005 là-bas.
Ouais. Mm. Donc la guitare, la composition. D'abord la guitare et après la composition.
La guitare et la composition, mais le chant après, effectivement.
Le chant après, voilà.
Et le songwriting après aussi.
Voilà, ton premier groupe, X Mariani.
Alors, c'est pas mon premier groupe, mais c'est l'un des premiers groupes avec lequel j'ai tourné.
Voilà. Et puis après, il y a d'abord le projet Victor en solo.
Ouais, qui est l'ancêtre de Grimm, en fait.
C'est... Voilà, puis le projet Grimm avec un EP et deux albums.
C'est un EP et trois albums.
Et trois albums, pourquoi je mets deux albums, moi.
Parce que t'en as oublié, hein, visiblement.
Bah, oui, c'est comme les années, hein. J'oublie des choses. Hein. Ouais. Bah oui, quand même.
Alors Michel.
Bon, ça arrive, hein.
Il y a
beaucoup de choses.
Il y en a un qui est moins bon sur les trois, c'est celui-ci.
Ah, c'est
oublié,
pour ça. C'est pour ça.
Non, puis c'est bien que tu te fasses corriger un petit peu par l'invité.
Non, mais je m'étais arrêté à un hôtel, une étoile en 2020.
Ah, c'est
2020.
Le deuxième. Un manteau pour l'hiver 2021.
Mais oui, en plus, avec lequel on t'a vu à la tannerie.
Exactement.
Michel, allons.
Michel.
Mais c'est la fatigue.
Je te comprends, Michel.
La fatigue. Alors, repose-toi, Michel.
Et
le passage de la chanson aussi, le passage de chanson en anglais, en français aussi.
Exactement.
À travers le temps.
Ouais.
Voilà. Et pourquoi on change de... Parce qu'on grandit.
En fait, j'avais fait ce premier album de Grimm en anglais parce que j'écoute principalement de la musique anglophone, et en tout cas à l'époque, et j'avais toujours chanté qu'en anglais, donc c'était une évidence, voilà. Et puis quand j'ai commencé à faire le deuxième album de Grimm, j'avais l'impression d'être dans une redite, et surtout d'enfiler un costume qui n'était pas le mien. Et j'ai eu envie de, alors que c'est pas du tout ma culture musicale, j'avais envie de d'être plus moi-même. Je pense que le rôle d'un artiste, le minimum, c'est de se mettre à nu, sans. Et ça passait pour moi, en tout cas, ça passait par le fait de chanter dans ma langue maternelle, tout simplement. Alors j'ai des origines américaines, tout ça, ce qui fait que je prétextais l'anglais, mais si je me raconte pas d'histoire, en fait, je suis français, je lis des livres en français. Quand j'écris, j'écris en français. Quand je pense en français. Donc, c'était naturel. Après, ça a été un vrai chemin de croix parce que...
L'écriture doit être différente.
L'écriture est différente, le chant est différent, le placement de la voix est différent. Ouais. Et j'ai dû réapprendre à écrire des chansons, j'ai dû réapprendre à chanter, et ça a mis du temps. Et le deuxième album de Grimm, le premier en français, est un album vraiment de transition qu'aujourd'hui j'ai du mal à écouter parce que justement...
C'est pour ça que Michel l'a oublié aussi.
Le troisième, c'est le premier où j'ai commencé à être satisfait, où j'ai commencé à être vraiment moi-même dans la voix, quoi. Mais aujourd'hui, j'ai réussi à me défaire des démons qui m'empêchaient de chanter dans ma langue maternelle, et aujourd'hui j'y arrive et ça me permet de m'exprimer beaucoup plus librement.
Puis tu arrives plutôt bien.
C'est gentil, merci.
Donc il se passe un nombre d'années sur Paris.
15 ans, oui. 13 ans.
Voilà. Et puis un jour, vous décidez en famille de rentrer. Non, de quitter la ville, plutôt.
Plus
de quitter la ville que de rentrer.
Ouais, on avait besoin d'autres choses en famille, avec ma femme et mes deux enfants. On avait besoin d'autres choses, besoin d'imaginer un autre futur pour nos enfants que le béton. Mm-hmm. Un besoin de vivre plus en adéquation avec nos idéaux aussi. Et un besoin de nature. C'était pas très loin après le confinement aussi, où tu sais, il y avait cette espèce de saturation du béton et de l'enfermement et un besoin, voilà. Et puis on vit quand même une période un peu particulière où il y a beaucoup d'enjeux sociétaux et par rapport aux enjeux climatiques, aux enjeux environnementaux, etc., plutôt que... Je pense que l'une des premières choses à faire, c'est se reconnecter avec ce qui nous entoure, avec notre environnement, avec la nature, avec ces choses-là. Pour les ressentir, parce qu'en fait on fait pas de mal à quelque chose qu'on aime, et en fait la plupart des gens, dont moi le premier, j'étais un peu un écologiste de salon, mais j'avais toujours grandi à Lyon, à Paris, et j'étais pas connecté avec mon environnement, j'étais pas connecté, je savais pas ce que reconnaître les plantes, je savais pas reconnaître le chant des oiseaux ou les animaux, enfin je savais pas ce que c'était que la nature, je la défendais dans les dîners, je parlais très fort en disant « Mais tu te rends compte, mais non !» Mais en vrai, je parlais de toutes choses que je ne comprenais pas. Alors, les valeurs, c'est toujours des valeurs que je défends, mais j'ai eu besoin, plutôt que de parler fort, de me reconnecter à... Voilà. Et donc, on est allé s'installer en pleine forêt, effectivement. On a rebâti une vieille demeure. J'ai monté mon studio et... Alors, on a un peu paumé au milieu de nulle part, mais je dois avouer que ça m'a apporté beaucoup, beaucoup.
Et donc, le changement, encore un changement de nom, et même si ce n'est pas encore Victor Lee Gabriel Roux, c'est comme Victor Lee Gabriel qui est presque, alors, ce qui est presque la même chose, mais quand même.
C'est ça. En fait, j'ai eu 4 années de vie un peu particulière et d'une rare intensité, en tout cas pour moi. Et... j'ai déménagé avec ma femme et mes enfants. On a retapé cette vieille maison là au milieu de la forêt. Et en fait, le dernier carton déballé après avoir fini les travaux, en fait, on a découvert un cancer à ma femme. On a découvert une maladie incurable à ma femme. Et on est rentré dans 2 ans de lutte contre la maladie. Et en fait, j'ai eu besoin de... J'ai vécu ça un peu comme une forme de départ, de nouveau départ, de remise à zéro. En fait, moi, j'étais le genre de personne à toujours vivre soit dans le passé, soit dans le futur, à pas m'ancrer dans le présent. Et en fait, la maladie et l'environnement dans lequel on était aujourd'hui, dans cette nature, bizarrement, en fait, je me suis mis à voir de la lumière à des endroits où je savais même pas que pouvait y avoir de la lumière. Et malgré la douleur, le choc de l'annonce, en fait, je me suis mis à être plus heureux que je l'avais jamais été parce que je me concentrais sur le présent. Tu sais, quand tu es face à la maladie, tu sais pas de quoi va être fait demain. Et puis demain, de toute façon, est flippant, donc tu te concentres sur aujourd'hui. Et en fait, tu te rends compte que tu as tout pour être parfaitement heureux. Des enfants, une maison dans un endroit incroyable, une femme que t'aimes, un métier que t'aimes. Et en fait, j'ai cessé de vivre soit hier, soit demain, et j'ai commencé à vivre aujourd'hui. Et j'ai commencé à écrire des chansons qui parlent de ça. L'album Le Monstre et la Maison, justement, parle de ça. Et je pouvais pas continuer avec. Je me suis redécouvert. Je me suis découvert une résilience que je me savais pas. On s'aurait rencontré il y a 3 ans, je t'aurais dit que j'étais quelqu'un de pessimiste, dépressif. Et en fait, pas du tout. On dit que. Tant que tu ne vas pas à la guerre, tu ne sais pas comment tu réagis. Là, c'était un peu ça. Et je me suis découvert un appétit pour la vie que je ne me connaissais pas. Et que je n'ai pas du tout l'intention de lâcher. Et voilà. Et ma femme s'est envolée maintenant, il y a 1 an. Et tu vois, malgré le manque, c'est ce que je dis tous les soirs sur scène, mais malgré le manque et la tristesse et le manque... il me reste au final un goût de vie, en fait, de pulsion de vie. La vie, elle est courte, il faut en profiter, quoi.
Ouais. Allez, on va découvrir un premier morceau, si tu le veux bien. C'est plus dans l'ordre.
Ça marche.
C'est plus dans l'ordre.
Oui,
Est-ce que c'est bien de suivre l'ordre de l'album
Les ordres, c'est fait pour être...
Respecté.
Absolument pas respecté, justement.
Tonio, c'est à toi.
Non, mais si tu veux commencer par tien, vas-y.
Tonio, c'est à toi.
Allez, comme premier extrait, j'ai choisi celui qui donne le titre à l'album. Donc, Le Monstre et la Maison. Extrait 2, Le Monstre et la Maison. Victor Lee Gabriel.
Et la raison, mais qui dans les bruits
Le Monstre et la Maison, un extrait de l'album qui porte le même titre, hein, Le Monstre et la Maison, publié, Michel.
Le 25 avril.
Je ne sais pas, c'est toi qui as la date exacte.
Oui, le 25 avril 2025.
Voilà. Et donc,
Peu de temps avant ou après ton concert à la tannerie de Bourg-en-Bresse, je crois, non ?
Juste après, ouais.
Juste après, c'est ça.
Et donc, l'artiste, c'est Victor Lee Gabriel.
Voilà. Donc, Le Monstre et la Maison.
Je voulais raconter un peu.
C'est toi qui en parles le mieux.
Le monstre, c'est une analogie et de la maladie et des doutes et de l'angoisse. En fait, après, on peut le rapprocher à ce qu'on veut. Les doutes, l'angoisse, ces choses qui reviennent et qui s'accrochent. Et la maison, c'est évidemment un clin d'œil à notre maison au milieu de la forêt, mais en même temps, ces choses qui réconfortent, dans lesquelles on se sent en sécurité, qui protègent. Et le disque, c'était un peu comme une face pile, une face-face. De la même médaille, il y a les monstres, mais il y a aussi ces choses, la maison qui protège et cette espèce de dualité. Et qui a fait écho à nos vies avec ce monde merveilleux au milieu de la forêt et en même temps cette maladie avec laquelle il a fallu faire face. Donc ça parle de cette période, tout simplement.
C'est une œuvre profondément intime.
Oui. Ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, je pense qu'il n'y a pas de définition ni à l'art, ni à ce que doit être un artiste dans une société, etc. Après, moi, le sens que moi j'y mets à ma petite échelle, c'est un devoir de mise à nu. C'est-à-dire que pour moi, ce métier nous donne la chance d'avoir un auditoire, je ne sais pas comment on dit, même s'il est petit. Et que le moins qu'on puisse faire, c'est de se mettre à nu et de raconter sincèrement ce que l'on vit, ce qui nous traverse, en fait. Voilà. Alors, c'est pas une définition que je donne, c'est ma définition, et c'est la définition que je m'applique à moi-même, en tout cas.
C'est ta perception à toi.
Exactement.
C'est aussi une thérapie.
D'une certaine manière, ouais. Par la force des choses, oui. C'est pas volontaire, c'est-à-dire que je fais pas ça pour... Mais c'est ma façon d'exprimer les choses, le trop-plein, ouais, je pense. Et c'est aussi... Alors, cette chanson n'est pas forcément révélateur de cela, mais c'est une façon pour moi aussi de garder espoir. La musique, ça me... C'est... Moi, je crois en la catharsis, et donc ça me permet de vivre pleinement les émotions et de prendre du recul et de... Donc oui, il y a une forme d'autothérapie, inconsciente, mais oui.
En tout cas, c'est... tu m'as enlevé le bout de la bouche. Oui, c'est un album qui est plein d'espoir.
C'est comme ça que je le voulais, en tout cas.
Parce que de résilience, y a beaucoup d'espoir, c'est...
C'est-à-dire que ce que je... C'est un album
c'est comme l'histoire du verre à moitié vide.
Exactement.
Soit tu le prends à moitié vide, à moitié plein. Là, il est plutôt à moitié plein. Là.
Il est clairement à moitié plein. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure.
Tu me dis plein de choses. Hors antenne, tu veux dire ?
Non. À 30 secondes, là.
Ok. Je me répète, alors.
Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, ce que j'ai retiré de toute cette histoire, c'est de voir de la lumière à des endroits où je ne savais même pas qu'il pouvait y en avoir. Et qu'en fait...
Il l'a dit, ça. Ouais. Je confirme.
Oui. Et puis, c'est ce que je répète tous les soirs sur scène. Je parle beaucoup sur scène. Et c'est ce que... Je suis pas venu ni me lamenter ni au contraire. Si je prends la parole à travers ce disque, c'est justement pour dire putain, la vie est courte, elle est belle, profitons-en. C'est quand on perd les choses qu'on se rend compte de la chance qu'on avait. Et moi, je crois au fait que on n'a pas qu'un seul amour dans la vie. L'amour, c'est pas quelque chose qui se partage dans le sens comme un gâteau qui se découpe, c'est quelque chose qui se cumule, c'est exponentiel et que en fait c'est à nous, moi je crois au choix, je crois qu'on peut s'autodéterminer, qu'on peut avoir une action sur nos vies, sur ce qu'on ressent, que même s'il y a des déterminismes évidemment mais qu'on peut agir dessus par la façon dont on aborde la chose. Et oui, le message, c'est un message d'espoir. Voilà. Donc c'est un album que je veux espérant.
Ouais. En tout cas, quand on invite Victor Roux, on raconte un peu ton histoire. En fait, le plus gêné, c'est pas toi.
Le plus gêné,
c'est pas toi.
Je sais pas, t'es gêné.
Tu te racontes. Moi, ça me gêne. Enfin, ça me gêne. C'est une histoire qui est forte, mais qui est triste, qui est forte et tout ce que tu veux. C'est pas facile de par exemple sur scène quand tu racontes, tu racontes ce qui s'est passé.
Ah ouais, comme je viens de te le faire. Ouais.
Les plus gênés, c'est pas les plus gênés. Tu vois.
Je sais pas s'il y a une gêne. Alors je sais que
c'est
parfois.
C'est pas question de gêne, d'être mal à l'aise ou de.
Mais il y a pas de raison en fait.
Non, il y a pas de raison, mais
la mort est un tabou dans notre société. Je pense que, en fait, la mort, c'est pas forcément quelque chose qui doit être tabou, et c'est pas forcément quelque chose de noir. C'est-à-dire que tu peux le voir de plein de façons. Il y a pas de vie sans mort, il y a pas de mort sans vie, et que, en fait, on est là. Le temps, il est compté, on le sait, et c'est pas, enfin, j'allais dire, c'est pas une fatalité. Si, c'est une fatalité, mais la fatalité est pas forcément quelque chose de négatif. Au contraire, si elle nous permet de vivre les choses pleinement, de nous concentrer sur l'essentiel, ben peut-être que si on prenait un peu plus conscience que les choses sont fragiles, on en prendrait plus soin et on serait peut-être tous plus heureux, je sais pas. Mais bon, là, je fais des grandes phrases, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de gêne à avoir. Alors, je sais qu'il y a des gens que ces sujets peuvent paraître trop intimes, etc. Mmh. En vrai, c'est pas mon problème. Après, les gens que ça gêne, ben, je les oblige pas à rentrer. Voilà. Moi, mon message, c'est pas
après,
de.
C'est ton vécu, c'est ton histoire,
c'est
et t'as décidé d'en parler.
Exactement.
Après, c'est.
Moi, voilà. C'est ça qui nourrit. Moi, je sais que mon besoin artistique, c'est de me raconter. Mmh. Je raconte ce que j'ai à raconter. Moi, j'ai besoin de le raconter parce que j'ai besoin d'exprimer les choses. Voilà. Après, les gens avec qui ça résonne, tant mieux. Et ceux à qui ça fait pas du bien, eh ben, je les invite à pas en tenir compte, tout simplement. Mm-hmm. Mais en tout cas, moi, l'idée, c'est pas ni de choquer, ni de... Non, c'est simplement au contraire.
Le truc, pas du tout.
J'espère, voilà. Après, on n'a jamais conscience de ce qu'on renvoie aux autres, mais moi, c'est un message de lumière que j'ai envie de passer. En fait, on est plus fort qu'on ne le pense, et la vie est plus belle qu'on veut bien le croire. Je te jure, avant de vivre tout ça, j'étais triste pour des conneries, mais tellement. Je me prenais la tête tellement pour des bêtises, et aujourd'hui, alors je te dis pas que tout est rose tous les jours, je suis comme tout le monde, j'ai mes hauts, j'ai mes bas, mais t'as des fondamentaux qui s'imposent à toi, et j'ai vécu cette petite expérience qu'au final tout le monde connaît un jour, hein, que ce soit par des parents, des proches, et puis des gens malades, aujourd'hui c'est le mal du siècle, les cancers, et enfin ce que je veux dire, c'est que mon histoire est au final d'une banalité... Et je me suis rendu compte de ça, quand tu commences à t'intéresser autour de toi à ces questions-là, tu te rends compte que tout le monde a un malade autour de lui et est confronté à la mort. Enfin, on y est tous confrontés, ça fait partie de la vie. Donc on chante l'amour tout le temps parce qu'on y est tous confrontés, mais pourquoi pas chanter l'espoir et la vie parce qu'on est tous confrontés à la mort aussi. Et c'est, ouais. Pour moi, c'est pas sinistre. Et j'espère que c'est pas ce que je renvoie.
Musicalement, ouais. Musicalement.
Alors après, le morceau que t'as mis, le premier morceau, il est un peu particulier parce que j'ai voulu l'album un peu. Justement, il y a une face, la maison et une face plus le monstre. Là, clairement, c'était le morceau le monstre, mais c'est vrai que le reste de l'album.
Ça bascule là. Ouais.
Ouais.
C'est le moment de bascule.
Exactement, c'est le moment de bascule, mais pour celles et ceux qui nous écoutent, la globalité du disque est très lumineux. Et,
Oui. Après, il y a différentes sortes de lumière.
Exactement.
Le début est plus.
Plus enjoué.
Oui, tout à fait. Voilà. Eh ben, le début, on va écouter un morceau du début.
Eh ben, tu vois, comme ça se goupille bien, Michel.
Voilà.
Ah, finalement.
Voilà. Avec.
On est revenu dans l'ordre.
Voilà.
Extrait donc du premier album, parce que c'est le premier album de Victor Lee Gabriel.
C'est mon premier album.
Tu en appelleras sûrement un autre. Hein, d'après ce que, comme tu dis si bien, comme je te l'ai déjà dit. Non, c'est pas ça comme tu disais.
Comme je te l'ai dit tout à l'heure.
Voilà, comme tu me l'as dit tout à l'heure.
Mais
voilà.
Peut-être hors antenne alors.
Là pour le coup, oui.
Là, pour le coup, c'était hors antenne.
Ah, là, donc je peux pas confirmer là.
Non. Bah, dans quelques mois, tu pourras confirmer.
Oui, non, mais de ce que vous êtes dit en antenne, c'est ça
voilà,
ce que je veux dire.
Ok, d'accord.
Oui, Michel.
Donc, extrait donc, du premier album de Victor Lee Gabriel, qui sont tes trois premiers.
C'est mes prénoms. C'est mes prénoms.
Simplement. Voilà.
Bah, toi, ça s'appellerait que Michel, toi.
Voilà.
Tu t'appellerais un autre artiste Michel.
Michel Paul.
Ah, Michel Paul. Tu me l'as jamais dit que tu en avais un deuxième prénom. Oh, Michel Paul. Oh, c'est rigolo.
Trop tard. Alors, l'album s'appelle Le Monstre à la Maison. Il est sorti le 25 avril 2025. Le deuxième morceau de ce soir, j'ai choisi Tout est à refaire.
Ok.
Allez, Victor Lee Gabriel.
Changer, tout est à refaire. Repeindre nos dieux, changer le nord. Pourquoi changer, tout est à refaire. Changer nos yeux, s'éloigner du bord.
À refaire, signé Victor Lee Gabriel. Alors, si je dis tout est à refaire, rien n'a changé, à nous de tout de commencer, et c'est signé Christian Dior.
Quoi? comprends pas, je connais pas bien les campagnes de pub de Christian Dior, mais j'ai paraphrasé Christian Dior.
Il y en a une, c'était pourquoi changer, tout est à refaire, rien n'a changé, à nous de tout recommencer, et c'est signé Christian Dior qui disait ça.
C'est vrai?
Ouais.
Ah bah tu vois, j'aurais pu être publicitaire si j'avais su.
Bah tu vois, je me suis dit, tiens, il a piqué un truc à Christian Dior.
De façon
ça m'étonnait.
Mais bah, tout a été dit visiblement. Ça y est, la boucle est bouclée.
Donc, un très beau paradoxe qui joue sur le dépassement du découragement et l'élan créatif.
Ouais.
C'est ça.
Et bah écoute.
Voilà. Bon, musicalement donc, parce que...
Je l'ignorais, tu vois.
Voilà, donc... Tu cites du Christian Dior
sans le savoir,
c'est beau,
ça a bien fait de venir, tu vois.
Ouais,
c'est beau. Donc un album qui sent la pop à plein nez.
Ah bah ouais clairement.
Clairement. Bon, avec Grimm c'était déjà un petit peu le cas quand même, pas mal le cas. Donc la pop. Bon après il faut des, il faut une, la composition qui va avec. Bon le, parce que bon les textes sont ce qu'ils sont, mais bon musicalement. Ouais, c'est une pop enjouée, beaucoup de grandiloquence, comme on dit avec le premier morceau, très pas mal de trucs symphoniques.
Ouais, j'ai ce goût pour les choses un peu orchestrales, effectivement.
Ouais, voilà.
Et puis j'ai la chance d'avoir un studio à la maison, d'avoir plein d'instruments, etc. Ouais. Et le studio, c'est vraiment que c'est un peu. Moi, je suis comme un gamin dans un parc, dans une ludothèque, quoi. Et puis, tu sais, en plus, aujourd'hui, avec les outils qu'on a, incroyable, on fait ce qu'on veut. Et tout seul, tu peux avoir un orchestre symphonique sous les mains. Et quand c'est possible, moi, j'y vais.
Tu t'es dit, je suis le George Martin.
Je suis le Phil Spector.
Du 42.
Du 42, exactement. Je suis le Phil Spector du 42.
Alors, George Martin Ah oui, Phil Spector, c'est l'ingénieur du son, mais... George Martin, c'est...
Phil Spector, c'est les Stones. George Martin, c'est les Beatles.
Et à la fin des Beatles, c'était pas George Martin, c'était qui?
Beatles, c'est George Martin. Jeff Emerick. À la console, la fin, c'est Jeff Emerick.
Bref.
Ça geek.
Toi, t'es multi-instrumentiste?
Oui.
Par la force des choses ou par envie?
Les deux. Les deux sont liés, hein, mais par la force des choses, à la base, je jouais de la guitare, puis j'ai voulu chanter mes chansons, je me suis mis à chanter, et puis on avait besoin d'un bassiste, alors je me suis mis à faire de la basse, et puis je voulais enregistrer mes chansons, alors je me suis mis à jouer de la batterie, puis j'ai découvert la musique électronique, alors je me suis mis au synthé et à la musique électronique, et puis après, j'ai un copain qui faisait de la trompette, je trouvais ça super cool, il m'a donné une trompette, alors je me suis mis à la trompette, et ainsi de suite. Ouais.
Bon. Pour chanter, c'est moins pratique. Hein.
La trompette? Ouais. Bah, si t'es ventriloque, tu t'en sors. Hein.
comme dirait Yves-Marie Bello, heureusement que j'ai un bon ami qui joue bien de la trompette, sinon... Même s'il pourrait en jouer sur disque, hein, mais c'est pas le cas en plus. Ouais. Ouais. Donc, quelques invités quand même. Ouais, t'aurais pu le faire tout seul, cet album?
Ouais, j'en ai fait beaucoup tout seul, dans Grimm. Et en fait, justement, il y a un... pendant mes années parisiennes, j'avais un studio de 5 mètres carrés où effectivement je faisais tout seul, et en fait c'est assez asphyxiant de tout faire tout seul. Et même si j'ai un petit côté comme ça, contrôle freak, ça, à tout vouloir contrôler malgré moi, le fait d'inviter des amis à venir, à rejouer les choses, ils viennent t'apporter leur lumière, ils viennent t'apporter leurs pattes, etc. Et on est quand même plus fort à plusieurs. Et ça amène le disque ailleurs, ça le fait résonner plus fort, quoi. Donc c'est pas parce que tu peux le faire que c'est mieux de le faire tout seul.
Donc tu as invité quelques amis?
J'ai invité des amis, des gens avec qui j'avais envie de jouer, souvent des gens meilleurs que moi par exemple je pense à mon batteur qui est clairement un meilleur batteur que moi, enfin c'est même pas comparable, et donc d'amener son expertise tout simplement, pareil sur les trompettes, pareil sur voilà. Et puis l'idée de faire la musique à la base c'est quand même un truc de partage, et il y a quand même le home studio, c'est génial, je défends le home studio, mais il y a quand même un truc un peu contre nature de tout faire tout seul tout le temps, même si c'est chouette. La musique c'est quand même un truc qui se partage à la base, donc voilà. Quand tu peux, quand t'as la possibilité de le faire, et j'ai eu la chance d'avoir un label qui m'a permis de le faire, voilà.
Ça s'appelle Vibration sur le fil,
exactement,
voilà. Et tes musiciens, ça... parce qu'on peut les citer.
Complètement. Sur cet album, il y a Olivier Carbonel à la batterie, François Morel à la basse et à la contrebasse.
Un autre François Morel, oui.
le vrai, l'autre n'est qu'une pâle copie.
François Morel, et je ne sais pas qui était bassiste.
Il y a Luc Lagier à la trompette. Il y a Youssef Essaouabi au trombone. Il y a Come John, un groupe de deux sœurs, les sœurs Salva, qui, Claire et Gaëlle du groupe Come John, qui font les chœurs.
Piano,
Jean-Philippe Heurteau.
Voilà.
Est-ce que j'oublie les gens? Non, je crois que j'oublie personne.
Non, c'est juste pour les cuivres, tu as eu besoin d'Eddy et Laurent Guillot pour les.
Ah, bah, Eddy Lagouyache, mon ami Eddy Lagouyache,
ah bah oui,
qui.
C'est
voilà. J'avais oublié, tu vois, qui jouait des cuivres sur le disque.
Ah, oui, c'est, j'ai vu. Ouais, je me rappelle plus qui s'appelait. Ok. Ok. Donc, tout ça, bah, fait un album musicalement très pop symphonique, très.
Ouais, pop orchestral un peu.
Ouais. Bon, beaucoup de cœur, forcément. Avec différentes ambiances, ça, c'est très jouissif au début, ça l'est, et c'est plus introspectif, c'est plus intime à la fin.
Moi, en fait, c'était mon premier vinyle que je sortais, et c'était un de mes rêves de gosse de sortir un vinyle, parce que moi, je suis quand même de la génération CD. Et j'avais toujours sorti que des CD, et là j'ai pu sortir un vinyle. C'était mon rêve de gosse, comme je te disais, quand j'étais ado, moi c'était ma période 65-75, autant te dire que la musique, moi c'était par vinyle. Mmh. Et j'ai pu sortir un vinyle, donc j'ai pu le penser comme se pensaient les albums autrefois, face A, face B.
Ah là déjà.
Et donc bah, je voulais. Il y a cette opposition dans le titre, et je le voulais dans l'écoute, donc je voulais cette face A et cette face B.
Ah ouais. Bien. En tout cas, eh bien, c'est réussi.
Bah, je t'en remercie.
Voilà, vu que l'heure tourne, on va annoncer les concerts de la semaine. On va écouter un dernier morceau, hein, de façon que ce ne soit pas trop en retard quand même. Parce que tu es attendu du côté de
chez moi.
De chez toi. Voilà. Allez, annonçons les concerts, chacun notre tour. On annonce un concert, un petit commentaire, ne fait pas de malade.
Pour la feuille qui est juste devant toi.
Ah, c'est moi qui annonce les concerts.
Chacun notre tour.
Tous les trois.
Ok, allez. Alors j'ai pas mes lunettes, donc je risque de décorcher les mots.
Bien.
Bon, bon t'aideras.
Alors, le vendredi 12 juin 2026, vas-y, tu annonces le premier, on va voir si tu arrives à lire.
Eh ben, Parc de Jarniou, le 69, Festival Blues à Jarniou, avec Mountain Men et Mazingo.
Le Château de la Tour, Claude et Tourelle, le festival du Claude et Tourelle, avec Matt Mata, Lilywood and the Prick, Emerald Moon et Diatomic Cat.
Dans les Jardins de la Bille de Cluny, Festival Le Grand Bastringue, avec Zenton, On Dub Ground, Ashkabad, c'est pour ça que tu n'avais pas voulu le prendre, tu l'as laissé celui-là. LGMX et ma Home Dub.
Ouais.
En plein air Saint-Martin-d'en-Haut, dans le 69 toujours, Festival Saint-Mar, Soud, Pression avec Ketan, Les Naufragés et la Ruda Salska.
Ah oui. Je rajoute entre parenthèses au Biscro à Servigna, toujours le samedi 12 juin, les Super Condors ex Pepper Plain. Ça te rappelle tout ce que Antonio qui sera avec nous à la rentrée.
D'accord.
Voilà, tu peux annoncer le prochain, Victor. Non, c'est pas
Tonio,
Tonio.
Ah bah peu importe. À la vache rouge, Vénitieux, Artline.
C'est du métal. Hard rock.
À tout bout de champ, à Lyon, on retrouve Jérémy Bossonne.
Au Transbordeur de Villeurbanne, les vents passent.
Salolam de Gouges, à Bourg, Vincent Chanet qui chante François Béranger.
Ouais.
Alors là, on passe au samedi 13 juin 2026. Alors ce sera au Centre Sportif Cergy, Festifier avec The Odds et Oriska.
Les grandes locaux à la Lyon, la Mulatière, le festival Lion Street Food Festival avec les Pony Run.
Parc de Jarniou dans le 69, Festival Blues à Jarniou avec Pacôme Rotondo, Jesse Lee and the Alchemist et The Sinelli Brothers.
Au Jardin de l'Abbaye de Cluny, il y aura le festival Le Grand Bastringue avec Marcus Gad et Laïe Grosse.
Ouais. En plein air à Saint-Martin d'en haut, toujours le festival Saint-Mars sous pression avec nos amis les Tites Nacelles et nos amis aussi les Debout sur le Zing.
Parc du Château de Montréal-Lacluse, donc dans l'Ain, Music Park 2026 avec Evel, Not the Rolling Stones, The Hook et Artline.
Et à l'espace H2M, Bourg-en-Bresse. Mute.
Ouais. Le dimanche 14 juin, chez Louisette, à Cluny, en Saône-et-Loire, notre ami Célestin. Tu connais Célestin ?
Pas du tout.
C'est un des deux batteurs des Filth Monkeys.
Ah oui, d'accord.
Voilà,
okay. C'est pas Yann, c'est l'autre.
C'est l'autre.
Voilà.
Tout à fait, voilà. Qui jouait dans la GMPZ il y a 20 ans.
Mardi 16 juin, Groupama Stadium à Lyon, Linkin Park en première partie, Last Train.
Et mercredi 17 juin 2026, alors ce sera les Triplettes Social Club à Amberieu-en-Bugey, Casualties et Rise Up.
au Transborder de Villeurbanne. Je crois que c'est un vieux groupe, et je suis même sûr, c'est les Counting Crows.
Ouais, je savais même pas qu'ils existaient encore.
Moi non plus, c'est pour ça. Voilà.
Mr. Jones. Voilà. On passe au jeudi 18 juin à tout bout de champ à Lyon, Caïman.
Qui vient de sortir son dernier album Dreamcore. Elle est venue nous voir, on va pas la dire. Remixé par d'autres amis à elle. Voilà.
D'accord.
Et c'est pas mal du tout.
Et au Théâtre Antique de Fourvière, à Lyon, donc pour les Nuits de Fourvière, il y aura Jack White et Trix.
Et on finira à la salle des fêtes à Marseille Étoile dans le Rhône. Malaka. Voilà. Avant de se quitter, te dire au revoir, un dernier morceau.
Ouais. Hein,
plus, voilà, bah,
et ben, qui fait partie de la phase B, on va dire, la deuxième partie. Voilà. C'est Ce n'est rien, Victor Lee Gabriel, extrait du Le Monstre et la Maison.
Quoi que l'on sache, que l'on croit ou qu'on prenne, quoi qu'on en pense, ce n'est rien. Quoi qu'il se passe ou bien que l'on apprenne, ou quoi que l'on traîne, ce n'est rien. Ce n'est rien. Ce n'est rien.
Ce n'est rien, un dernier extrait pardon, de l'album Le Monstre et la Maison de Victor Lee Gabriel.
Une base très gainsbourgienne quand même des fois. Hein.
C'est vrai, une vieille Hofner. Ouais.
Je connais rien en marque de basse.
Il y a un petit quelque chose comme ça.
Ouais. La pop à la française, quoi. Et même la dernière chanson, je dis, mais c'est du Benjamin Biolay.
Ah ouais, oui, ouais, c'est la grosse voix qui fait ça.
Il y a un côté Benjamin. Voilà. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Bon,
c'est ni bien ni mal. C'est... Moi, j'aime bien Biolay.
Les supporters stéphanois ne diront pas ça. Mais bon, voilà. Vu que Benjamin Biolay est anti-stéphanois au point qu'il n'a rien compris. Bon, mais ce n'est pas grave. Allez, ce n'est que du sport. Bon, et heureusement pour nous.
Vous avez tous compris que Michel est stéphanois.
Voilà. J'aime bien Benjamin Biolay, quoi. Sauf quand il parle foot.
Voilà. Bon.
Allez. C'est pas comme Victor. Il est l'heure de se quitter. Victor, oui. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio B et de Terminus des Prétentieux.
Eh ben, merci de m'avoir invité.
Bah écoute, c'est un réel plaisir. Rappelons que tu as sorti sous ton nom, dernier nom d'artiste, parce que peut-y en aura peut-être un autre un jour, hein. Victor Lee Gabriel. Un album Le Monstre et la Maison, sorti le 25 avril 2025 sur ton label Vibration sur le fil. Alors, quand et comment peut-on se procurer, sans oublier les autres albums de Grimm, par exemple?
Eh ben, chez tous les disquaires. Voilà. Vous pouvez les trouver au moins en précommande, enfin en commande au pire, même à la Fnac, tout ça, chez les bandiers. Sinon, sur Bandcamp. Ouais. Sur Bandcamp, le vinyle est... vous pouvez vous procurer le vinyle ou les CD. Et voilà, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram. Et sur Instagram, il y a un lien vers la billetterie pour les concerts. Et puis, le, je sais pas comment on dit, la billetterie, mais pour les disques, vous pouvez acheter les disques en ligne sur via le
lien pour les commandes.
Exactement, voilà.
Sans oublier sur Internet ton site, victorligabriel.com quand même.
Ah ben...
Alors, parce que ça, c'est plus important, c'est un site officiel quand même.
C'est ça.
Il y en a un, c'est tellement rare qu'il faut le souligner. Et donc tu parlais toi des inévitables réseaux sociaux, ou évitables réseaux sociaux, ça dépend si c'est mis où et là ou pas. Alors, et on te retrouve prochainement en concert dans le cadre du festival Chalon au fil de l'été à Chalon-sur-Saône le dimanche 19 juillet 2026.
Voilà, et aux Nuées Ardentes le 14 juin, donc dimanche, pas très loin de Clermont-Ferrand.
Ah mais c'est trop loin pour nous. Nos ondes n'y vont pas.
N'y vont
c'est
pas.
Trop loin.
Ah, mais si les gens veulent prendre leur voiture ou le train.
Oui, ils peuvent. Tonio, bonsoir.
Michel Paul, bonsoir.
Ouais, ok.
Michel Paul.
Ah bah, il n'y avait qu'à pas le dire.
Alors, la semaine prochaine, Christophe Royer nous accompagnera durant une heure. On le retrouvera dans la 60e édition de Romans de Gare, où il présentera ses deux derniers romans, un thriller, L'Escadron Blanc, et un thriller fantastique pour les jeunes adultes, Dorgem, année 1989. Si vous êtes jeudi, eh bien, de retrouver à 18h30, voire un peu avant la rediffusion de la 59e édition de Romans de Gare, Léna Pongelard, qui était avec nous la semaine dernière, a présenté son deuxième roman Brûle Bleu, paru aux éditions Christian Bourgois le 5 février 2026. Et comme tu le dis si bien, Tonio, rendez-vous jeudi prochain à partir de 17h15 sur les 90.0
de Radio B.
Victor, bonne chance pour la suite de tes aventures.
Merci beaucoup.
Bon concert.
Eh ben merci, à très bientôt.
À bientôt sur Radio B.
Ouais, encore merci, au revoir.
Merci à toi, salut.